Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, il y aura le journal de la culture, puis notre invité Jean-Marc Dumonté pour parler de la nuit des Molières. C'est ce soir sur France 2. Mais on va également faire avec lui un état des lieux du monde du théâtre, avec lui, ce proche d'Emmanuel Macron. Il y aura évidemment le portrait inattendu de Jean-Marc Dumonté par Hélène Manarino. Et puis, dans les indispensables entre les films qui ressortent et les nouveautés, on vous dira lesquels ne pas rater. Il y en a une quarantaine qui sortent, puis un jeu vidéo qui enflamme Twitter. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture maintenant, journal qui débute par un bilan concernant la réouverture des salles de cinéma.
Et oui, c'était hier le grand jour, le premier jour du déconfinement des salles obscures. Alors après 100 jours de fermeture et une perte quand même de 400 millions d'euros, il y avait cette question, est-ce que les spectateurs seront présents? Les spécialistes, notamment le Film Français, estiment que le résultat est digne d'un mercredi de sortie. Par exemple, pour le cinéma MK2 dans le 13e arrondissement de Paris, on comptabilisait plus de 300 personnes à la première séance de 9h. Certains étaient même venus dès minuit dans quelques salles qui proposaient des séances nocturnes. Alors selon un sondage Médiamétrie publié la semaine dernière, 18,7 millions de Français ont déclaré avoir l'intention d'aller au cinéma dans les 4 prochaines semaines. On a pu voir en tout cas sur internet quelques images de l'entrée des salles avec de la queue, des sourires, des tickets dans les mains. Alors le hashtag continue. Tous au cinéma.
Et justement, on y reste au cinéma, Hélène. Plus précisément, on va se pencher sur le cinéma romantique.
De romantisme ce mardi matin, Philippe, puisque le festival du film romantique de Cabourg aura bien lieu cette année, du 29 juin au 1er juillet, donc la semaine prochaine. Plusieurs aménagements avaient été envisagés pour cette édition 2020, notamment, vous savez, le drive-in pour les séances de cinéma, où vous regardez un film dans votre voiture, une remise de prix à distance, pas d'invité prévu, mais ça c'était avant. Puisque les stars, eh bien, elles seront présentes, le tapis rouge sera là et l'amour pourra être célébré, sans attendre. Oui, je suis romantique ce matin.
Ouais, je vois.
Sont attendus évidemment le jury, Benoît Magimel, Doria Tillier, Isil Lebesco entre autres. Et puis le festival attend également Nicolas Bedos, Michael Cohen, Anaïs de Moustier, Lambert Wilson, Zaya. Les films pourront être admirés dans les salles de cinéma de Cabourg avec des conditions sanitaires très strictes. Évidemment, tout sera dévoilé dans les jours à venir.
Côté cinéma américain à présent, c'est Hugh Jackman dans la peau d'un célèbre constructeur automobile.
L'acteur américain va interpréter Enzo Ferrari, le pilote surnommé Il Commendatore, reconverti en constructeur automobile, au milieu des années 20. Ce sera pour la première fois au cinéma. Robert De Niro, Christian Bale étaient pressentis pour jouer le rôle, mais le réalisateur Michael Mann a décidé d'offrir ce rôle à Hugh Jackman. Le film se déroulera pendant l'été 1957. Enzo Ferrari a 60 ans. Il vient de perdre son fils. Son mariage est en péril. Il va donc trouver la force dans la course automobile. La production commencera en 2021. En attendant, le réalisateur va reconstituer des voitures de l'époque pour donc ce grand film d'action. Il aurait aussi remanié le script pour le présenter au marché du film à Cannes.
Musique, un grand concert virtuel organisé pour un vaccin contre le Covid-19.
Des grandes stars se mobilisent pour collecter des dons dans la recherche mondiale. Le concert aura lieu samedi soir. Événement présenté par l'acteur Dwayne Johnson. Le concert sera diffusé par le groupe Canal+ et sur plusieurs plateformes. Alors sont attendus, Philippe ? Réponse en musique. Vous avez remarqué le mix préparé par Jérémy,
j'adore, quand même pas mal. J'adore cette grosse bouillie de son, c'est formidable.
Eh ben oui, merci
Shakira,
Jérémy.
Shakira, Coldplay. J'ai reconnu les Forbans aussi, qui d'autre?
Justin Bieber.
Évidemment, Céline, Justin Bieber. Alors, il y aura aussi Usher, Miley Cyrus, Christine and the Queens, dit Chris aujourd'hui, ainsi que d'autres célébrités pour plusieurs entretiens et conférences.
Ouais, ça ne marchera pas. Si la carrière était là, vous diriez qu'il n'y a pas Tom Leb, ça ne peut pas marcher. Le retour de Mamma Mia au cinéma.
Ah, après l'immense succès.
Vous êtes en roue libre ce matin.
Je n'ai pas vu que le micro était allumé. Après, bon, écoutez, je chante. Après l'immense succès des deux premiers volets qui ont rapporté plus $1 milliard au box-office, un Mamma Mia 3 est en préparation. Information de la réalisatrice. Film qui met en image évidemment l'univers d'ABBA. Au cinéma, la réalisatrice se demande s'il y a assez de chansons du groupe qui n'ont pas été utilisées pour faire un troisième film. Universal, en tout cas, est très partant pour que le projet puisse se faire.
Et puis on termine en musique, Hélène, avec le retour d'un célèbre groupe.
Mon groupe préféré, je vous le dis.
Ah bah oui.
Vraiment, on s'en fout.
Non, on s'en fout pas. Non, Destiny's Child, mon groupe préféré.
Destiny's Child, Survivor. Alors oui, vous avez reconnu, porté par Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams. Elles ont vendu plus de 60 millions de disques dans le monde. Leur dernier album date de 2004. Alors, elles s'étaient affichées sur scène ensemble lors du Super Bowl en 2013 et aussi à Coachella en 2018. Dans les prochains mois, les filles pourront donc annoncer de nouvelles chansons, des concerts. Et oui, trop bien. Si et seulement si la pandémie est totalement terminée, elles discutent, travaillent ensemble. Beyoncé en a très envie. Le groupe fête en plus leurs 20 ans de carrière cette année. Alors, on attend des précisions. Mais une annonce en studio d'un retour en studio pourrait se faire rapidement. On dit oui au retour des Destiny's Child.
Oui, merci beaucoup Hélène. On dit oui aussi pour votre tour tout à l'heure pour le portrait inattendu.
À tout à l'heure.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-Marc Dumonté.
On est ravis de l'accueillir, Jean-Marc Dumonté, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes quelqu'un qui compte énormément dans cette station, mais surtout dans le théâtre en France. Vous êtes le directeur de pas moins de 5 salles de théâtre à Paris. Bobino, le Théâtre Antoine, le Théâtre Libre, le Point Virgule et le Grand Point Virgule. Vous êtes également producteur, notamment Nicolas Canteloup. Voilà pourquoi je dis que vous comptez autant dans cette station. Mais surtout, et c'est notre sujet du jour, vous êtes le président des Molières, les récompenses du théâtre, dont la 32e édition a lieu ce soir à 21h en prime time, s'il vous plaît, sur France 2, en prime time, mais pas en direct. L'émission qui était prévue le 11 mai a été reportée à cause du confinement. Donc là, vous avez dû vous réinventer. Si je suis bien informé, vous avez enregistré en plusieurs soirées, de jeudi à hier au Théâtre du Châtelet. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir?
On va voir une cérémonie des Molières qui est là avant tout pour célébrer le théâtre, pour mettre en avant et en lumière la formidable saison théâtrale qu'on a eue, même si elle a été tronquée, même si elle s'est arrêtée le 14 mars. Mais c'est une cérémonie qui est là pour célébrer le théâtre. Et puis surtout pour dire que le théâtre vivant, il est toujours vivant. Et quand on a décidé ça, début avril avec France 2, et vraiment je remercie Delphine Ernotte et Michel Field, je leur ai demandé de maintenir cette cérémonie parce qu'on imaginait bien qu'un jour, ce Covid, il serait derrière nous.
Ouais.
Donc il faudrait réapprendre à vivre.
Mais c'est pas...
Il faudrait réapprendre à aller au théâtre. Donc à partir de là, l'impulsion qu'allait donner une cérémonie comme les Molières était nécessaire.
J'adore votre énergie communicative. Vous dites que c'est une cérémonie comme les autres. Non, il n'y aura pas de public dans la salle.
Oui, et alors, c'est une cérémonie où on va mettre en avant...
Je ne vais pas me faire engueuler, Jean-Marc Dumonté.
C'est une cérémonie où on va mettre en avant le théâtre. Donc oui, il n'y aura pas de public, mais... ça n'a pas empêché ces pièces de se dérouler, ces acteurs de réaliser des prouesses artistiques. Donc certes, il y a des difficultés, il y a des petites contraintes,
ouais.
Mais qu'importe.
Bruno Solo devait présenter, il devait être le maître de cérémonie. Finalement, c'est lui qui a refusé.
Non, c'est pas lui qui a refusé, ça s'est passé différemment. Bruno était extrêmement engagé, on était très heureux de l'avoir. Et puis effectivement, dans un premier temps, la cérémonie du 11 mai s'est annulée. Bruno devait être un grand maître de cérémonie comme l'ont été Lutz, Vizorek ou Nicolas Bedos, qui a fait 3 cérémonies avec un brio incroyable. Et il se retrouvait mal, et je le comprends aisément, dans la présentation d'une émission télé. Lui, il avait son imaginaire, il avait ses idées fortes, d'une grande cérémonie, et tout à coup on lui disait ben non, ce sera une émission de télé, et il s'est dit mais je m'y retrouve pas, moi je suis un homme de scène. Donc Bruno, il a pas refusé, il a regretté de pas pouvoir le faire, vraiment regretté, et nous on a compris. Et on est là pour accompagner les artistes. À partir du moment où ils ont une réticence, il ne faut pas le faire.
La meneuse de jeu ce soir, ce sera donc Anne-Sophie Lacaro, journaliste de la rédaction de France 2. Comment vous avez ménagé le suspense? Je veux dire par là que comme vous avez enregistré depuis la semaine dernière, vous connaissez les lauréats.
Ah ben moi, je les connais toujours avant. Hein, ça, c'est le principe. L'huissier me remet les résultats quelques jours avant. Et donc, nous sommes deux à connaître les résultats avec l'huissier.
Non, alors je veux dire, tout le monde sait, les gens...
Depuis, nous avons enregistré effectivement les séquences dimanche et lundi. Et depuis dimanche et lundi, vous voyez, il n'y a pas de fuite. Tout le monde joue le jeu parce qu'on sait que c'est important et qu'il faut qu'il y ait cette tension dramatique.
Ouais.
Autrement, la cérémonie perdrait un peu son sel. Donc, tout le monde a intérêt à jouer le jeu. Et puis, on a fait signer des accords de confidentialité parce que c'est mieux quand, au-delà de l'engagement moral, on signe un petit papier, ça évite des fuites.
Mais il y aura quand même les ouvertures d'enveloppes.
Ah, il y aura totalement totalement les ouvertures d'enveloppes. L'huissier est même apparu sur la première séquence pour bien montrer qu'il existait, ouais, que cette cérémonie reprenait tous les codes. Donc oui, oui, bien sûr, il y aura tout ça.
Alors, si je suis bien informé par Le Parisien, il n'y aura pas de remettant, mais il y aura des duos d'accompagnants. Ils vont faire quoi? Il y aura Clémentine Serlarié-Berléand, Isabelle Carré, Jean-Pierre Darroussin, c'est ça?
Oui.
Elsa Silberstein, Alex Lutz, oui. Audrey Fleurot et Charles Berling.
Vous savez tout?
Ils vont faire quoi? Non, bah, j'ai juste les noms.
Mais ils sont là pour témoigner, ils sont là pour expliquer un petit peu leur métier de comédien, ils sont là pour partager des anecdotes sur leur vie de comédien. C'est une cérémonie autour du théâtre, c'est pas anormal qu'il y ait aussi des représentants et des artistes. Et on a choisi des artistes qui avaient de belles carrières, qui embrassaient le théâtre public, le théâtre privé, et voilà, qui vont accompagner la présentation de cette soirée.
Je me réfère une fois de plus au Parisien, mais là c'est un papier un peu ancien, du 4 juin. Le ministre de la Culture, c'est une première, Franck Riester, devrait être absent de la cérémonie. Est-ce que vous confirmez ?
C'est faux. Franck Riester était là, il est venu parce que ça l'intéresse évidemment, et qu'il voulait nous témoigner son soutien. Donc il était là. Ce que racontait Le Parisien à ce moment-là, début juin, c'est qu'effectivement, il n'était pas invité comme chaque année. Et ça a été une cérémonie calme d'ailleurs pour lui, parce que généralement, un ministre, il est interpellé, il est invectivé, il est apostrophé, il y a pourquoi pas une invasion par des gilets jaunes comme l'année dernière. Là, c'était une soirée, c'était un matin d'ailleurs que nous avons enregistré, assez calme pour lui, mais il est venu et c'était normal et nous, on était heureux parce qu'on a besoin, le monde de la culture évidemment, aujourd'hui, que l'État prenne en considération nos difficultés.
On est bien d'accord, vous restez avec nous, Jean-Marc Dumontet.
Le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est dans un instant. Et ce matin, on découvrira le portrait de Jean-Marc Dumontet sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
S'il y a quelqu'un qui est inattendu, c'est bien Jean-Marc Dumontet. Mais là, c'est le portrait inattendu de quelqu'un d'inattendu. Hélène, Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc Dumontet.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler quelques petits détails que l'on ne connaît pas forcément de vous.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit.
Il y a de la joie chez Jean-Marc Dumontet, Charles Trenet que vous admirez beaucoup. On peut citer aussi Balavoine, Aznavour, les Beatles. La musique est omniprésente chez vous, ça chante chez les Dumontet en permanence, notamment avec vos enfants. Vos enfants avec qui vous partagez cette passion pour les pizzas, pâtes bolo, coquillettes, jambon.
Non, c'est la grande cuisine.
Ouais, bah oui. Grande cuisine.
Ah, on est chez Ducasse là.
Je ne parle pas de vos déjeuners du mercredi avec vos amis où vous commandez chaque mercredi la même chose, des nems avec une petite salade à côté.
Oui, c'est vrai. Hein, et mes amis, c'est Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian, les auteurs de Nicolas.
D'accord. Et c'est toujours le même menu.
Oui, oui, oui.
Ils font pas les mêmes blagues quand même.
Eux, ils font pas les mêmes blagues, mais moi, c'est toujours le même menu.
Un petit côté enfantin qui ne vous a jamais quitté, notamment du côté des jeux. Alors Jean-Marc Dumontet, vous détestez, mais alors vous détestez perdre. Mais mieux, vous voulez absolument gagner, comme vous aimez préciser. Lorsqu'un jeu commence, vous vous mettez en condition, vous faites tout pour être le meilleur au ping-pong, au baby-foot aussi, et au foot également.
C'est vrai ?
C'est vrai. J'aime plutôt gagner, incontestablement. Ouais. Je ne crois pas être un mauvais perdant. Pardon de vous interrompre, c'est pas facile d'être interrompu dans une chronique. Mais j'aime pas perdre. Je suis pas trop mauvais perdant, mais je suis vraiment mobilisé pour gagner. Oui, je suis
vraiment mobilisé. Un baby foot, vous êtes mobilisé.
Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Je suis mobilisé pour gagner. C'est vrai.
Alors
c'est vrai.
Sportif.
C'est un peu ridicule, hein, mais je suis comme ça.
Sportif, oui. Admiratif aussi, notamment de Woody Allen. Vous connaissez absolument tout. Puis il y a aussi le street art qui vous guide. Alors Jean-Marc Dumontet, comme un véritable homme de théâtre, vous êtes très ponctuel. Sauf ce jour, vous avez raté votre train pour l'aller et pour le retour, et c'était dans la même journée. Alors peu importe, en vous, il y a surtout l'exigence, depuis toujours avec un rituel, chaque matin, la lecture de la presse, Le Parisien, Le Figaro, Les Échos, avec cette collection du journal Le Monde que vous avez racheté à Bordeaux il y a quelques années. Vous avez tous les exemplaires du Monde depuis 30 ans chez vous, à tel
plus,
point...
C'est vrai ?
Plus que
je
30
lis
ans.
Le Monde depuis 81, ça vous prouve que je suis quelqu'un d'âgé. Je lis Le Monde depuis 81 et je garde Le Monde depuis 81. Et en plus, j'ai racheté la collection du Monde de 54 à 94.
Ça occupe quel volume ?
C'est monstrueux.
Il y a une pièce, presque, c'est vous qui existe avec les journaux, quand même.
Et ils sont classés ? On peut les retrouver ?
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Alors justement, cette curiosité précise du monde qui nous entoure, elle vous a toujours tenu à cœur, vous connaissez tout. Vous êtes presque capable de donner le résultat d'une élection. Par exemple, une élection municipale, il y a quelques années, avec le pourcentage de chaque candidat. Vous admirez toute cette vie politique analysée.
Vraiment ?
J'aime les chiffres.
Ouais.
Voilà, j'aime les chiffres aussi, donc je peux avoir une mémoire sur les chiffres assez surprenante par moment, oui.
Par exemple,
mais je connais pas tout, j'en sais rien. Non, mais là...
Par exemple, le maire de Grenoble, c'est qui ?
Ah, le maire de Grenoble, c'est Éric Piolle, c'est, ouais. C'est l'écolo qui a été élu la dernière fois et qui est très bien placé. Pour...
À combien ?
Ah, la dernière fois, je sais pas. Non.
Là, vous êtes très fort, parce que je l'ai fait au pif. Hein.
Oui.
Dis donc.
Eh ben oui, vous.
Oui, non, mais j'ai une bonne connaissance de la vie politique depuis longtemps. Oui.
Et voilà, on y vient. Vous me faites une passe décisive. Vous admirez toute cette vie politique, analysez les personnalités politiques avec cette envie première, vous sûrement, de faire bouger les choses. Et ça passe évidemment par votre exigence envers les autres, à la recherche permanente du meilleur. Votre phrase d'ailleurs que vous répétez souvent à vos comédiens, c'est « vous ne faites pas l'événement ». Alors.
Attends, juste un mot, qu'est-ce que ça veut dire, vous ne faites pas l'événement ?
À chaque fois qu'on monte sur scène, à chaque fois qu'on a la chance d'être derrière un micro, à chaque fois qu'on prend la parole, ça doit être pour marquer. Donc faire l'événement, ça veut dire que votre prestation est vraiment novatrice, forte, et c'est ça que j'attends de chacun.
Qu'il fasse l'événement,
qu'il
justement.
Qu'il fasse l'événement, exactement.
D'accord, j'ai compris.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une autre formule, peut-être que vous ne l'avez pas, mais que j'avais dit à mon grand ami Stéphane Joly, qui est le metteur en scène de Canteloup. Et je lui avais dit à propos d'un spectacle, la billetterie. Non, ton spectacle
n'est pas à la hauteur de la billetterie, voilà. Je le savais.
Vous le saviez.
Voilà. Et c'est mon anecdote d'après. C'est
pour
le spectacle.
Mais je
sais tout, Jean-Marc.
Vous avez
monté. Et oui, lors du spectacle, les cliniques au Palais des Glaces. Et voilà, c'est ça. La salle était pleine à craquer. Plus une place du côté de la billetterie. Mais pour vous, vous venez de le dire, le spectacle n'était pas à la hauteur de la billetterie. Alors vous avez voulu faire retravailler les équipes alors que le spectacle cartonnait. Finalement, c'est ça le secret. C'est comme ça que l'on crée l'événement, Jean-Marc Dumonté. Très fidèle, vous êtes prêt à tout pour vos amis, vos équipes. Vous êtes monté sur scène également, deux fois à l'Olympia. Alors, non pas pour saluer le public, mais pour de vrais rôles, comme pour les 80 ans de Pierre Richard lors d'un sketch sur le burlesque. Il fallait que quelqu'un nettoie la scène. Alors au dernier moment, on vous a désigné, vous avez donc balayé, tout simplement. Et puis il y a eu.
C'est Pierre Richard qui trouvait ça. Pardon, on vous attend, mais c'est Pierre Richard qui trouvait ça très drôle de me faire balayer la scène.
Voilà. Vous avez le trac quand même.
Non, pas du tout. Mais alors pour Pierre, je ferai tout. Donc j'ai évidemment pris un balai, enfourché un balai, et je suis parti nettoyer la scène.
Et puis il y a eu la comédie musicale Scooby-Doo, un hommage à vos enfants. Dans ce spectacle, il fallait un maire du village. Les comédiens ne le savaient pas, c'est que c'était leur producteur qui allait endosser ce rôle sur scène. Surprenant, oui, vous rêvez souvent de vos voyages aux États-Unis, à New York notamment, de sa folie, de son « tout est possible », comme on dit, car des limites, vous ne vous en êtes jamais mis. Vos envies, vous les faites exister. Et comme le dit si bien Charles Trenet dans l'une de vos chansons préférées d'ailleurs, L'âme des poètes, parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la, et ce la la la, vous ne l'avez jamais fait.
Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
Vous les chantez ?
Non, parce que je ne chante pas assez bien, mais c'est une chanson assez merveilleuse, vraiment mélodiquement magnifique.
En littérature, on appelle ça tirer à la ligne, les gens qui font la la la, qui font durer, qui font durer. Vous êtes reconnu dans le portrait ?
Ouais, il y avait plein de choses tout à fait fondées.
Voilà.
Plein de choses tout à fait fondées.
Tant mieux.
Pas les choses laudatrices. Les choses laudatrices, on les laisse, mais sur les critiques, elles étaient tout à fait fondées.
D'accord. Et au baby-foot, quand vous voulez, je vous prends. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, je suis nul.
La suite de Culture
Merci
Média.
Hélène. À demain.
Merci.
Merci.
À la suite de Culture Média, ce sera comme chaque matin avec nos indispensables du jour. Les cinémas ont rouvert, on vous dira quel film aller voir. Et on parlera d'un jeu vidéo d'action et d'aventure, toujours en compagnie de notre invité Jean-Marc Dumonté sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure de nos indispensables du jour. On va parler jeux vidéo avec Clément Le Saffre dans un instant. Mais avant, on revient à l'actualité de notre invité Jean-Marc Dumonté, Philippe.
Jean-Marc Dumonté, vous êtes le président des Molières. Ça sera ce soir en direct, non pas en direct, en différé, mais à 21h en prime time. C'est assez rare pour être signalé. Je reste sur la télévision. Vous êtes également le producteur de Nicolas Canteloup sur TF1. L'émission devrait être conduite à la rentrée. C'est Charles Ange qui annonce ça. Non seulement l'émission sera réalisée fréquemment en extérieur, mais également que vous n'allez plus dépendre de TF1 pour la partie technique. Est-ce que vous confirmez ? Et qu'est-ce que ça va changer si oui ?
Je crois qu'il ne faut pas toujours croire ce que raconte la presse. Donc,
on a
évidemment envie de poursuivre. Je pense que TF1 a envie de poursuivre. Maintenant, on est dans des négociations, ce qui est assez logique parce que les temps sont malmenés. Donc, on est à ce moment-là. Et puis, on fait chaque année, fin juin, avec Nicolas, on mène une réflexion sur son agenda, sur ses envies. Parce que Nicolas, il a envie de revenir sur scène. Et le jour où il reviendra sur scène, il faudra qu'il abandonne les médias où il est. Donc, on fait un point chaque année, au calme, pas au milieu de l'année, pas au mois d'avril ou mai où on est fatigué. fin juin, l'année est terminée, on souffle un peu, on se pose, on réfléchit. Donc pour l'instant, il y a une envie réciproque. Il faut qu'on trouve des terrains d'entente, ça, on doit y parvenir, mais rien n'est arrêté. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce confinement nous a permis d'être extrêmement créatifs, de créer ce Canteloup confiné avec Alessandra Sublet d'un côté, Nicolas Canteloup de l'autre, chez lui, dans ses écuries où on enregistrait cette émission télé. Ça nous a ouvert plein de perspectives éditoriales. Ça nous a permis de faire ce deepfake, vous savez, cette métamorphose où Nicolas épouse totalement les visages des personnages qu'il parodie. Donc on a plein de perspectives artistiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'enfourcher un petit peu plus cette direction de production exécutive. Donc ça fait partie de nos éléments de discussion avec TF1. Tout est sur la table. Mais d'abord, il faut qu'on mène une vraie discussion, Nicolas et moi, sur ses envies. D'accord. Donc on est à un moment, logique de l'année, parce que c'est chaque année pareil depuis 9 ans sur TF1, où au mois de juin on décide.
Merci pour cette info et merci pour cette mise au point. Vous êtes gamer, vous jouez aux jeux vidéo?
Pas du tout.
Vos enfants?
Oui, bien sûr.
Ils jouent à quoi?
Fortnite.
Ouais, c'est voilà. Tout
J'ai l'impression beaucoup. Et comme ça m'agace un peu, et comme à la fois je veux pas être un vieux con, il s'agit pas de les priver, mais il s'agit de restreindre ça pour que ce soit sur des horaires naturels, parce qu'autrement ce serait toute la journée, je dois vous avouer que je suis pas souvent derrière eux quand ils jouent. Donc je dis Fortnite parce que j'en entends beaucoup parler, mais il y a peut-être d'autres jeux.
Ouais. Ils ont quel âge?
Ils ont 11 et 15.
Clément Le Saffre, vous avez à peine passé les 15 ans, bonjour.
Depuis quelques années, malgré tout.
Bonjour, vous nous parlez d'un jeu vidéo événement.
Oui, le jeu dont tout le monde parle en ce moment. Alors, on ne le recommandera pas aux enfants Jean-Marc Dumontet, parce qu'ils sont un peu trop jeunes. Mais c'est un jeu qui provoque des débats enflammés sur Twitter. Un jeu qu'on pourrait qualifier de chef-d'œuvre, tout simplement. Ça s'appelle The Last of Us Partie 2, et c'est sorti vendredi sur PS4.
J'ai pas le choix, je dois y aller.
Tout a un prix.
C'est la suite de The Last of Us, sorti en 2013 et vendu à 17 millions d'exemplaires, excusez du peu. L'histoire se situe aux États-Unis en 2033, un futur post-apocalyptique 20 ans après qu'un champignon parasite a décimé la population mondiale. 99% des gens sont morts, ou pire encore, transformés en mutants assoiffés de sang. On incarnait à l'époque Joël, qui était un survivant taciturne chargé d'escorter Ellie, une ado immunisée contre l'infection et donc dernier espoir de l'humanité. Pendant leur périple, Joël et Ellie apprenaient à se connaître dans une sorte de filiation vraiment très émouvante, jusqu'à un final époustouflant qui avait laissé les joueurs bouche bée.
Et donc j'imagine la partie 2, c'est la suite.
Exactement, on reprend l'histoire 4 ans plus tard, c'est un peu comme une série, une saison 2. Joël et Ellie se sont installés dans une communauté de survivants dans le Wyoming. Ils y ont trouvé un semblant de vie normale, amis, amour, fêtes, etc. Jusqu'au jour où une patrouille tourne mal, Ellie perd ce qu'elle a de plus cher. Consumée par la vengeance, elle se lance dans une odyssée qui l'a conduit à Seattle sur la trace des Wolves, une milice. Et cette fois, on incarne la jeune femme et son but est limpide.
Je vais les trouver. Je vais les tuer. Tous. Jusqu'au...
Voilà, c'est assez clair, ça en dit long sur l'histoire. Je n'en dirai quand même pas beaucoup plus sur le scénario, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de twists, de rebondissements. Simplement, c'est peut-être la plus grande histoire jamais écrite pour un jeu vidéo. C'est vraiment digne d'un film. Il y a des rebondissements à foison, des personnages très attachants, très fouillés, et puis des parties pris vraiment osées. C'est un véritable travail d'auteur. D'ailleurs, dans le générique, il y a écrit « Le jeu a été réalisé par quelqu'un », donc comme si c'était un film. Ça prend vraiment au trip. Moi, j'ai souffert avec l'héroïne, j'ai pleuré avec elle, j'ai partagé sa rage. Et comme moi, eh bien, si vous y jouez, vous n'en sortirez pas indemne.
Pardon de cette question de Béotien, mais s'il y a un scénario, donc la manière dont on joue, on tombe tout le temps sur ces points qui ont été prévus par les scénaristes.
Exactement.
On met juste plus ou moins de temps pour y parvenir.
Exactement.
Mais on ne peut pas partir sur une fausse route où l'histoire soit moins intéressante.
Il y a qu'une histoire, absolument.
Donc l'histoire très travaillée, est-ce que ça fait un bon jeu vidéo?
Bah oui, c'est franchement réussi. The Last of Us 2 emprunte à plusieurs genres. Alors, l'horreur, bien sûr, c'est un jeu d'infectés. Quand on se retrouve enfermé dans un immeuble avec ces espèces de mutants qui rôde, je peux vous dire que moi j'avais bien les jetons chez moi tranquillement. C'est un mélange aussi d'action et de survie très bien dosé. Par contre, attention, on le disait, The Last of Us est interdit aux moins de 18 ans. Il y a beaucoup de violence physique, l'hémoglobine coule à flot forcément, mais aussi de la violence morale, parce que c'est une chose d'éradiquer des espèces de zombies, mais c'en est une autre de tuer à la chaîne d'autres humains, et ça on le fait beaucoup dans le jeu. La survie et la vengeance, oui, mais à quel prix? C'est tout le propos du jeu.
Peut-être que la polémique vient de là, ça a l'air éprouvant. Vous avez pris du plaisir quand même à jouer.
Ouais, j'ai
à part à pleurer et transpirer.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé y jouer, justement, parce que ça procure beaucoup de sensations, et d'autant plus que c'est un jeu splendide. L'action se passe à Seattle, façon fin du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Je suis une légende avec Will Smith,
oui,
qui chassait le cerf dans les hautes herbes en plein New York. Et bien, c'est très inspiré en termes d'univers, une ville vide avec bâtiments effondrés, voitures abandonnées et nature qui a repris ses droits. Tout a été travaillé dans les moindres détails. C'est un jeu incroyablement riche, rempli de séquences avec des environnements mémorables. Par exemple, il y a l'arrivée dans Seattle qui est recouverte de lierres, de plantes grimpantes qui est absolument magnifique. Ou encore bien un hôpital absolument terrifiant.
D'un mot, parler de chef-d'œuvre, qu'est-ce qui distingue The Last of Us d'autres très bons jeux?
C'est sa capacité en fait à équilibrer ce que je disais, cette action, cette tension de tous les moments et des moments d'émotion pure. C'est-à-dire vraiment, quand je vous dis qu'on a la larme à l'œil en jouant, c'est vraiment pas exagéré. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment des émotions très très fortes, notamment autour du personnage d'Ellie, qui est un personnage, je le cite parce que c'est très important, c'est un personnage qui est ouvertement lesbienne. Il n'y en a pas beaucoup dans les jeux vidéo.
Jean-Marc Dumontet, un commentaire?
Il m'avait l'air assez éprouvé après ce jeu, donc je ne sais pas si c'est un moment de bonheur. Et puis maintenant, ça m'amuse particulièrement ces jeux de science-fiction et d'anticipation, parce que ce qu'on a vécu, je pense qu'aucun jeu n'aurait pu l'imaginer, cette période d'absence totale de confinement.
Personne, voilà. Vous avez raison.
Voilà, donc on a un autre regard, je trouve, aujourd'hui sur ce jeu.
Un jeu qui parle de pandémie et qui sort en ce moment, c'est sûr que le timing était parfait. Ouais.
Merci beaucoup Clément Le Saff, vous restez avec nous Jean-Marc Dumontet.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-Marc Dumontet qui est notre invité. On va revenir à la cérémonie des Molières, dont il est le président dans un instant. Mais avant, on va au cinéma avec Mathieu Charrier, Philippe.
Mais oui, parce que les salles de cinéma ont rouvert hier. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Alors, vous nous avez parlé ici même des conditions sanitaires de cette réouverture. Mais qu'est-ce qu'on va y voir dans ces cinémas? D'abord, Mathieu, vous allez commencer par nous parler des films qui ressortent.
Oui, c'était les films qui étaient à l'affiche avant le confinement, qui n'avaient pas fini leur carrière. Leur carrière avait été brutalement interrompue. Et donc, ils reviennent en salle. Alors, il y a notamment De Gaulle, on en avait parlé ici, porté par Lambert Wilson, qui se concentre vraiment sur la période mai-juin 40, lorsque l'armée française est mal en point, que Pétain pousse pour accepter la défaite et que ce colonel, à l'époque, il n'est que colonel, va décider de ne pas laisser tomber. C'est un film très classique sur la forme, film historique, mais que je conseille à nos auditeurs. D'ailleurs, il avait bien démarré avant le confinement, je crois qu'il en était à 600 000 entrées. Donc là, il devrait repartir et c'est vraiment un film sur lequel on a des bons retours.
Autre film français qui avait très bien démarré avant la fermeture des cinémas et qui ressort, La Bonne Épouse, portée par Juliette Binoche.
Ouais, on en avait parlé aussi, je vous propose de revenir 50 ans en arrière, puisqu'à l'époque, il existait un peu partout en France des écoles ménagères qui accueillaient des jeunes filles qui, pour se former pendant 2 ans à devenir de bonnes épouses. C'était il y a 50 ans, c'était pas non plus il y a 2 siècles. Il y avait 7 piliers pour faire de vous, mesdemoiselles, la perle des ménagères, un rêve pour vos futurs époux. Là, je cite Paulette van der Beek, c'est le personnage de Juliette Binoche qui dirige cette école. Donc voilà, c'est une comédie sociale, légère, chantée, colorée à certains moments. Et ça fait du bien aussi dans ces temps un peu compliqués.
Et alors Mathieu, les autres films qui sortent?
Alors, il y en a beaucoup qui ressortent, d'autres qui sortent. Vous vous rappelez peut-être de Radioactive, le biopic de Marjane Satrapi consacré à Marie Curie. Vous avez Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieu. Vous avez 2 comédies françaises aussi. Lucky, par le réalisateur de Dick Henneck, avec Florence Foresti en flic corrompu jusqu'à l'os, Michael Youn et Alban Ivanov qui vont décider de voler un chien policier. Qui est, vous savez, formé pour chercher de la drogue. Ils se disent comme ça, une fois qu'on l'aura avec nous, il va nous trouver de la drogue et on va la revendre.
C'est drôle.
Assez drôle et ça marche bien. Contrairement en revanche à L'Esprit de famille d'Éric Bénard, qui malgré la présence au casting de Josiane Balasco, François Bellon, traîne un peu en longueur. Vous avez un super film américain aussi qui s'appelle Invisible Man, vous savez, avec Elizabeth Moss, la star de la série The Handmaid's Tale. Et là, ouais. Non,
je voulais dire que je m'en souvenais parce que l'affiche était sur les bus, comme ils ne changeaient pas les affiches. On a vu l'affiche pendant 2 mois de ce film.
Vous l'avez suivi et c'est génial. Elle se sépare de son mari, qui est un richissime homme d'affaires et qui invente une combinaison pour devenir invisible et qui va venir la terroriser. C'est comme si dans le studio, là, il y avait des stylos qui volaient, que je vous lance un stylo à la figure, mais vous ne voyez pas que c'était moi.
Ouais, heureusement qu'il y a une vitre.
Tout ça, ça ressort. Il y avait aussi un petit film franco-tunisien qui s'appelle Mon fils, que j'ai déjà conseillé à nos éditeurs et je le redis, qui est formidable sur un père qui roule au volant d'un gros 4x4 dans le sud tunisien. Ils vont se faire tirer dessus, son fils va être blessé. Il va falloir faire un don d'organes pour le sauver. Il n'y a que le père qui peut être donneur. Sauf qu'on va se rendre compte à l'occasion des analyses en vue de ce don que c'est pas le père. Et donc, ça va se poser la question, sauver l'enfant. Oui, évidemment, ça reste mon enfant, mais comment? Donc voilà, ça, tout ça, c'était des bonnes surprises d'avant confinement. Allez-y.
Mais surtout, ce qu'on attend,
les
nouveautés de chez nouveautés.
Il n'y en a pas tant que ça, des nouveautés, hein, parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui sont un peu prudents. Mais il y a 2 films, moi, que je vous conseille. Le premier, c'est Béni. C'est un film franco-allemand. C'est aussi le nom de son personnage principal. C'est une jeune fille de 9 ans qui a été délaissée par sa maman qui l'a confiée à l'assistance sociale à la naissance et qui s'enferme dans une forme de violence, qui n'écoute plus personne. Il n'y a que son tuteur qui va réussir un petit peu à communiquer avec elle. Il va l'emmener dans une forêt pour un long séjour pour essayer de renouer des liens avec elle. Et alors, vous allez me dire, oui, ça, on a déjà vu l'enfant qui s'enferme dans la violence parce que délaissé par ses parents, etc. Oui, mais là, il y a une vraie esthétique. C'est un premier film, une vraie esthétique un peu punk. Vous avez sûrement vu l'affiche aussi dans les rues. C'est une sur fond rose. Et c'est un très, très beau film que j'ai vu il y a plusieurs semaines et dont les images me hantent encore. Donc, Béni, vous pouvez y aller. Et puis, un autre film qui va vous plaire, Philippe, ça s'appelle The Hunt. C'est le film, je ne sais pas si vous en rappelez, que Donald Trump avait tenté de faire interdire. C'est un film, le film commence, on est dans une sorte de plaine, vous avez des Américains qui se réveillent, qui savent pas ce qu'ils font là, ils ont été mis comme ça, déposés là, il y a une caisse en bois, ils l'ouvrent, il y a des armes à l'intérieur, bon, ils saisissent des armes et on commence à leur tirer dessus. Et on va se rendre compte qu'en fait, ils ont été capturés pour participer, pour être les victimes d'une chasse à l'homme de richissimes Américains qui eux payent, qui sont dans une sorte de manoir et qui tirent sur des hommes. Voilà, c'est une véritable chasse à l'homme.
Et quel rapport avec Trump ?
Parce que Trump, il estimait que c'était pas très... pro-républicain, on va dire, ces riches qui se payent le droit de tuer des hommes. On va se rendre compte que le film n'est pas du tout aussi binaire ou aussi manichéen que ça, parce qu'évidemment, il va y en avoir une qui va réussir à se rebeller, et je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, c'est un film assez horrible, mais qui quand même est assez jouissif quand vous le regardez.
The Hunt, ça veut dire la chasse.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses quand même dans les salles, et d'autres qui arrivent dans les semaines qui viennent, on en reparlera.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Comment ça se passe pour les théâtres, Jean-Marc Dumontet ? Est-ce que les théâtres ont le droit de rouvrir ? Et avec ce droit, vont-ils rouvrir ? Rouvrent-ils cette semaine ? Vous-même, vos 5 théâtres étaient ouverts hier.
Oui, parce que initialement, avant l'intervention de Macron, les salles devaient ouvrir le 22, il l'a avancé au 15, donc on peut ouvrir depuis le 22. Donc nous, on s'est saisi de ce moment-là pour jouer dans nos théâtres parce qu'on avait trop souffert de ne pas jouer et que c'était la moindre des choses d'embrasser la scène puisqu'on le pouvait. Et on a eu des salles extrêmement chaleureuses. C'était des moments, mais très forts. Quand Richard Berry, qui joue Plaidoirie, est arrivé au Théâtre Libre hier, il a été mais acclamé. C'était génial, enfin, une entrée de spectacle incroyable. Et à la fin, évidemment, le public était debout aussi. Mais ça, c'est à chaque fois pour Plaidoirie, ils sont debout. Mais il y avait une ferveur du public assez extraordinaire. C'était des invités. On avait voulu rendre hommage aux soignants. On avait invité des soignants, on avait invité des spectateurs. Mais on voulait donner une impulsion. C'est important aujourd'hui qu'on se réveille, qu'on donne une impulsion. C'est important que le cinéma se réveille. Il est ouvert dans toute la France. Et pour nous, théâtre, on doit enfourcher aussi cette même initiative. Ouvrir, jouer, montrer qu'il y a des spectacles, montrer qu'on est vivant.
Et d'un mot, le public sans masque.
Le public, c'est sans masque aujourd'hui. Il y a une
D'un mot. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.
Culture Média continue avec notre invité Jean-Marc Dumontet. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec notre invité Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacle, directeur de théâtre et président des Molières, dont la 32e édition est diffusée ce soir à 21h sur France 2, Philippe.
Les Molières, on imagine que les pièces récompensées, ça peut créer un appel d'air, comme c'est toujours le cas, sauf cette année qui est tellement particulière, un appel d'air pour aller voir les pièces en salle. Est-ce que les salles vont réouvrir et comment ? Je vais citer Bernard Tamin, qui est le président du syndicat national du théâtre privé, qui dit on peut rouvrir théoriquement, mais dans les faits ce n'est pas viable économiquement si nous sommes obligés de maintenir la distanciation physique avec une salle à demi-vide ou trois quarts pleine. Une pièce est-elle rentable ? Comment vont réouvrir les théâtres ?
Je ne sais pas de quand date la déclaration de Tamin, mais vous savez aujourd'hui ça s'est extrêmement assoupli puisque la règle c'est que par groupe, donc un groupe c'est de 2 à 10 personnes, on doit laisser un siège de disponible. Donc on va pouvoir jouer dans des jauges à 70, 75, 80%. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer d'abord artistiquement dans des bonnes conditions. C'est la première chose, parce que si nos spectacles ne sont pas bons, il n'y aura pas de spectateurs. Donc on pourra jouer dans des conditions artistiques satisfaisantes. Pourquoi je fais le parallèle avec spectateurs ? Parce qu'une pièce, c'est un échange entre un public et des acteurs. Donc si le public il est clairsemé, s'il a peur, s'il n'a pas l'esprit libéré, ça ne marche pas. Il peut venir, le public, l'esprit libéré. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, à 70 ou 80% de la jauge, c'est tout à fait satisfaisant. Évidemment,
parce qu'il faut que ce soit rentable pour vous, il faut que la salle ouvre.
C'est le principe. Il faut ouvrir nos salles. Elles sont en train d'ouvrir. Il y a plein d'initiatives. Il y a le Théâtre de la Ville à Paris qui fait 48 heures non-stop depuis hier. On va vers l'ouverture. On est tendu vers ça. Notre seule difficulté, mais il ne faut pas parler de nos difficultés, mais c'est juste que dans notre métier, ce n'est pas comme un restaurateur qui ouvre son fourneau et puis qui peut commencer. Dans notre métier, il faut un temps de préparation artistique, il faut un temps de préparation commerciale. Notre vraie rentrée, elle sera en septembre, mais elle sera vraiment en septembre. Il n'y a aucun problème, certains théâtres vont pouvoir ouvrir dès cet été, certains s'y mettent, le grand point virgule sera le cas. Et puis, en septembre, tous les spectacles seront là et tous les théâtres seront ouverts à Paris. C'est ça la vraie information. Et dans des conditions de sanitaires satisfaisantes, tout en respectant des gestes barrières encore, ou tout au moins un siège entre deux groupes.
À part pour les comédiens qui tournent des films pendant l'été, parce que c'est traditionnellement la période, est-ce que, par exemple, on peut imaginer que vous et d'autres théâtres mettent à l'affiche en juillet, août, des spectacles qui ont été répétés avant ? Parce que vous avez raison, ça se répète une pièce de théâtre.
C'est pas possible parce qu'on a besoin, je parle sur des grands théâtres comme Théâtre Antoine, Théâtre Libre ou Bobino, on a besoin d'un temps commercial, d'un temps marketing, d'un temps de communication pour promouvoir nos spectacles et pour faire qu'il y ait du monde dans la salle. Et vous n'achetez pas en dernière minute, ou en tout cas tout le monde n'achète pas en dernière minute ses places. Donc ce n'est pas possible. Mais la vraie rentrée, elle sera en septembre avec des spectacles qui auront été travaillés cet été.
D'un mot, vous êtes un proche du président Macron. On lui a reproché de ne pas avoir pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe pour le monde de la culture. Est-ce que vous partagez cette critique et qu'est-ce qu'il vous dit à ce sujet ?
Je ne partage pas cette critique parce qu'il a pris la parole le 6 mai, longuement, avec des acteurs de ce métier, acteurs au sens large. Et il a débloqué une question essentielle sur l'intermittence parce que dans notre métier, on a beaucoup recours à l'intermittence et c'est une souplesse extraordinaire et c'est une garantie pour tous ceux qui y ont recours parce que vous savez, vous jouez une pièce pendant 6 mois, vous pouvez vous arrêter pendant 6 mois et en trouver une autre après. Donc, avec cette année blanche, c'est une sécurité absolue, c'est un encouragement absolu. Moi, je pense qu'il faut flécher les aides vers les plus fragiles, vers les festivals qui ont été anéantis parce que tout à coup, tout s'effondrait, vers les petites compagnies qui devaient faire Avignon, qui ne peuvent pas faire Avignon. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont été accompagnées, comme toutes les entreprises françaises, avec le chômage partiel, avec les prêts garantis par l'État, avec le report de charges. Maintenant, c'est à nous de prendre aussi en partie le relais, proposer de très beaux spectacles, mais je ne pense pas du tout que la culture a été abandonnée. C'était essentiel. On a parlé du cinéma, le système d'assurance qu'elle mettait en place pour que les tournages reprennent. Donc je ne pense pas du tout que la culture a été abandonnée. Maintenant, on est très fragilisé parce que ne pas pouvoir jouer, c'était un drame pour tous. Donc on a été très violenté psychologiquement par ça. Donc effectivement, les réactions peuvent être vives. On a toujours l'impression d'être un peu abandonné.
Merci beaucoup Jean-Marc Dumontet. Merci pour cette énergie. Je rappelle, la 32e Nuit des Molières, c'est ce soir sur France 2 à 21h et c'est un partenariat Europe 1, ce qui ne gâche rien. Nous, demain, nous serons là à 9h pour Culture Média. Nous serons avec le chef Philippe Etchebest. Il a rallumé ses fourneaux, comme vous dites. M6 lui consacre une soirée spéciale avec Cauchemar en cuisine plus un doc consacré à lui. Puis Ariel Dombal, chanteuse comédienne pour la sortie de son album rock. Ça s'appelle Empire. Merci Jean-Marc Dumontet.
Merci à vous.
Salut Céline Dacosta, salut Mathieu Charrier. À demain.
À demain Philippe Vandel. Anne Romanoff arrive dans un instant sur Europe 1.